cours d'agropédologie. Niveau licence deuxième année. Institut national supérieur des sciences agronomiques et des technologies agroalimentaires de l'AI. Chapitre 1er. Generalites. Première section. Introduction. La notion de sol est très ancienne. Mais ce n'est qu'en 1877 qu'un géologue russe du nom de Dokouchaev a eu l'occasion d'étudier des sols en Ukraine et de créer une science nouvelle. La pédologie, c'est-à-dire la science des sols. Le sol est une couche, ou un ensemble de couches d'épaisseur faible, allant de quelques centimètres à quelques mètres, qui recouvre la plupart du temps les roches. Cette couche est en relation directe avec la vie végétale. La conception du sol a constamment évolué. Aujourd'hui, nos connaissances sur le sol constituent une science très complexe appelée science du sol, dont l'aspect le plus général est la pédologie. Tous les agriculteurs et les naturalistes savent qu'il existe différents types de sols. La couleur, les proportions de cailloux, le comportement après les pluies et la profondeur sont des caractères qui varient beaucoup, parfois à l'intérieur d'une même parcelle. Depuis un peu plus d'un siècle, de nombreux chercheurs ont appliqué différentes techniques pour étudier les sols. On sait maintenant que la matière du sol est constituée d'éléments minéraux cristallins ou amorphes et d'éléments organiques vivants ou résiduels. Cette matière est constamment soumise à des variations d'état du fait des variations du climat et de l'atmosphère avec laquelle elle est en contact par sa partie supérieure. Le sol n'est donc pas un ensemble statique de corps matériels. C'est avant tout un complexe dynamique évoluant dans le temps. Deuxième section. Quelques concepts pédologiques. La formation du sol est due à une série de phénomènes lents et complexes désignés sous le nom d'altération. Premier point. Processus de formation du sol. Le premier stade de formation correspond à une surface de roche sur laquelle l'érosion vient de s'arrêter. Elle est soumise à l'action du climat. Les eaux de pluie qui tombent sur la roche ont dissous un peu de dioxyde de carbone de l'air et sont légèrement acides. Elles contiennent également quelques éléments azotés. Elles s'accumulent dans les fissures et les pores de la roche qu'elles attaquent. Dans le cas des calcaires, par exemple, elles provoquent l'altération des feldspaths. D'autres phénomènes se manifestent simultanément. Le vent apporte des poussières et des débris de végétaux, tandis que des spores de végétaux inférieurs ou des larves d'insectes peuvent être déposées sur la roche en voie d'altération. Le deuxième stade correspond à la surface ainsi décomposée, recouverte d'une mince couche de dépôts minéraux et organiques, qui va être rapidement colonisée par des éléments vivants, bactéries, lichens et insectes. Ceux-ci vont attaquer plus profondément la roche et constituer ainsi une couche assez importante de débris organiques qui permettra l'installation de végétaux supérieurs. Leurs racines vont sécréter des acides qui attaqueront la roche de surface, pendant que l'altération des minéraux continue. La couche humique, c'est-à-dire riche en humus, devient plus épaisse, retenant de plus grandes quantités d'eau. Le troisième stade est celui de la formation des différents horizons du sol. On peut déjà distinguer dans le sol en cours de formation plusieurs phases. La phase minérale correspond au reste de la roche à partir de laquelle s'est formé le sol. La phase résiduelle ou partie supérieure du sol est constituée d'éléments organiques et d'autres minéraux de petite taille, comme les sables et les limons, ou même de taille colloïdale comme les argiles et les carbonates. La phase aqueuse peut exister soit dans le sol, soit dans les fissures de la roche. Cette eau provoque le déplacement des substances solubles, qui se déposent à différents niveaux dans le sol pour donner des couches. Constitution particulière. La phase vivante correspond à la partie vivante du sol, comprenant les végétaux et les animaux. Ces différentes phases se disposent les unes par rapport aux autres selon des modalités déterminées, fonction du climat, de la pesanteur et de la perméabilité de la roche. Ces modalités varient au cours de l'année selon les saisons. Cependant, chaque année le cycle varie assez peu, de sorte que peu à peu s'individualisent dans le sol des couches à propriétés particulières et bien définies, les horizons. Le quatrième stade est celui du sol développé. Peu à peu, le volume de la phase résiduelle et de la matière organique s'accroît. L'altération de la phase minérale se poursuit. Fragmentation des cailloux, mise en solution de la plupart des minéraux. Seule l'alumine, les oxydes de titane et quelques minéraux lourds sont invariants. Les produits solubles se recombinent en grande partie pour donner des édifices cristallins de type argile. La matière organique fraîche subit des évolutions très variables. Très rapide et complète pour la matière animale, rapide pour une partie de la matière végétale, et beaucoup plus lente pour une autre partie, c'est l'humification. Peu à peu, les conditions physico-chimiques du sol se différencient en couches horizontales, déterminant soit le passage en solution, soit la précipitation des composés du sol. Il y a donc des transferts à l'intérieur du sol qui se traduisent, à la longue, par la formation de constituants différents dans les diverses couches. Deuxième point. Definitions. le sol est le résidu de l'altération, du remaniement et de l'organisation de la couche supérieure de la croûte terrestre sous l'action de la vie, de l'atmosphère et des échanges d'énergie qui s'y manifestent. La pédologie est la science qui étudie les caractères, l'évolution et la répartition des sols. Pour le pédologue, le sol est un corps organisé qui est à la fois le résultat et le siège de processus complexes. C'est une formation naturelle, parfois transformée par l'homme, qui peut et doit être l'objet d'une étude globale. La pédologie est une science à part entière qui fait appel à l'agronomie, à la botanique et à la géologie, sans être pour autant une branche de ces disciplines. Le pédon est le plus petit volume qui permet de définir un sol. Il s'agit, dans le cas général, d'un prisme grossièrement hexagonal de quelques mètres carrés de surface, limité à la partie supérieure par la surface du sol et à la partie inférieure par la roche mère sous-jacente. C'est aussi l'unité de volume qui résulte de l'évolution au cours du temps de la roche sous l'action des facteurs de la pédogenèse. La notion de pédon a été définie par les chercheurs américains en 1960. Le profil est une coupe verticale de sol allant depuis la surface jusqu'à la roche mère comprise. En pratique, c'est l'une des faces latérales verticales d'un pédon. Ce sont les chercheurs russes qui, à la fin du XIXe siècle, ont défini pour la première fois la notion de profil. Les horizons sont des couches parallèles à la surface du sol, d'épaisseur variable, caractérisées par leur nature et par leur relation. Un pédon peut être constitué de plusieurs horizons. L'organisation du sol se traduit à l'observation directe par la différenciation en horizons. Chapitre 2. Les constituants du sol. Première section. La fraction minérale du sol. Sous-section première. Composition granulométrique. La terre fine est constituée de particules dont le diamètre est inférieur à 2 mm. Les plus fines de ces particules sont agrégées entre elles par des ciments, notamment par des matières organiques, et sont floculées. On distingue trois classes granulométriques selon la taille des grains. Les sables ont un diamètre compris entre 2 mm et 50 micromètres. Les limons ont un diamètre compris entre 50 et 2 micromètres. Les argiles ont un diamètre inférieur à 2 micromètres. Sous-section deuxième. La texture. Les particules donnent au sol des caractères qui dépendent en grande partie de leur taille. Les sables grossiers n'adhèrent pas les uns aux autres et, s'ils sont majoritaires, le sol est perméable. Quand les éléments très fins sont majoritaires, ils constituent une masse continue, surtout à l'état humide, et le sol est alors imperméable. La plasticité, la cohérence, la stabilité des agrégats et bien d'autres caractères dépendent des proportions des différentes classes granulométriques du sol. C'est ce qui permet de définir la texture d'un sol, que l'on représente graphiquement à l'aide d'un triangle isocèle dont les trois pôles correspondent aux sables, aux limons et aux argiles. Sous-section troisième. Les sables. On distingue deux sous-classes granulométriques. Les sables grossiers, dont le diamètre est compris entre 2 mm et 0,2 mm, et les sables fins, dont le diamètre est compris entre 200 et 50 micromètres. En fonction de la densité des minéraux, on distingue deux fractions. Les minéraux lourds, de densité supérieure à 2,9, et les minéraux légers, de densité inférieure à 2,9. Les minéraux lourds sont les plus résistants aux agents de la pédogenèse. Ce sont des témoins et des résidus du matériau originel du sol. L'étude de leur aspect extérieur, appelée morphoscopie, s'adresse surtout au quartz, qui, étant très dur et très abondant, garde les traces des usures auxquelles il a été soumis. La forte résistance du quartz à l'altération en fait un enregistreur des actions physiques et chimiques subies au cours du temps. Les minéraux légers sont principalement des quartz, mais aussi des feldspaths, des micas et des feldspathoïdes. Ce sont des minéraux très importants car ils constituent une réserve de potasse ainsi que d'autres ions comme le sodium, le calcium, le fer et le magnésium dans le sol. Sous-section quatrième. Les limons. Ils sont constitués des mêmes minéraux que les sables, mais leur rapport surface sur volume est plus grand, et l'altération fait disparaître les limons assez rapidement. Dans les très vieux sols des régions à climat lixivien, c'est-à-dire à forte pluviométrie entraînant les éléments solubles en profondeur, la teneur en limons est très faible. Sous-section cinquième. Les argiles. L'argile est une fraction minérale du sol comportant des particules dont le diamètre est inférieur à 2 micromètres. On qualifie également un sol d'argileux lorsque la terre fine présente une texture avec une proportion d'argile supérieure à 40%. Les minéraux argileux ont une importance capitale dans le sol, car ils constituent la partie du sol qui migre facilement, qui gonfle et se rétracte en fonction de l'humidité, et qui possède surtout la propriété de fixer provisoirement certains éléments chimiques indispensables aux plantes. Par ailleurs, Les argiles sont les formes stables de la matière minérale silicatée dans les conditions physico-chimiques du sol. Sous-section 6e. Les carbonates. Avec les chlorures et les sulfates, les carbonates sont caractérisés par leur solubilité relativement forte comparée à celle des silicates. Le carbonate le plus abondant est la calcite, de formule chimique carbonate de calcium. Les autres minéraux carbonatés présents dans les sols sont la dolomite, la sidérite et le carbonate de sodium, ce dernier uniquement dans les sols allomorphes alcalins, à pH supérieur ou égal à 8,5. Les teneurs en carbonate de calcium dans les sols qui en contiennent sont très variables, de quelques pourcents à plus de 70%. Du point de vue agronomique et écologique, ce qui est important, c'est la réactivité du carbonate de calcium. Lorsqu'il a une taille inférieure à 20 micromètres, il correspond à ce que les pédologues appellent le calcaire actif, c'est-à-dire la fraction carbonatée susceptible de se solubiliser rapidement dans le sol. Propriété favorable du carbonate de calcium. La présence de carbonate influence fortement la réaction du sol. Les sols carbonatés se distinguent par un pH supérieur à 7, un tel pH est favorable à l'activité biologique, notamment celle des lombriques et de nombreuses bactéries. C'est pourquoi on pratique le cholage, c'est-à-dire l'apport de calcaire, dans les terres de culture. De plus, les carbonates jouent un rôle important dans la structuration du sol et la stabilité de sa structure, grâce aux ions calcium qu'ils libèrent lors de leur dissolution. La présence de carbonate de calcium a donc un effet bénéfique sur la porosité, la perméabilité et la résistance à la battance du sol. Propriété défavorable du carbonate de calcium. Un pH élevé, entre 7 et 8,5, détermine une absorption déficiente de certains oligoéléments comme le manganèse, le zinc, le cuivre ou le bore. Lorsque le taux de calcaire actif dépasse 7%, on observe également une absorption déficiente en fer. C'est la chlorose ferrique. Ce pouvoir chlorosant des sols carbonatés constitue donc un facteur limitant dont il faut tenir compte, notamment en arboriculture et en viticulture. En précipitant, les carbonates secondaires peuvent également entraîner une baisse de la minéralisation de l'azote et donc limiter sa disponibilité pour les plantes. Sous-section 7e. Les oxydroxydes. Avec les minéraux argileux, les oxydroxydes, anciennement appelés sesquioxydes ou oxydes hydratés, composent l'essentiel du complexe d'altération des sols. Ce sont des constituants omniprésents dans les fractions fines du sol, et notamment dans les argiles. Ils se rencontrent aussi dans les limons et les sables. À l'origine, les oxydroxydes proviennent de l'altération des minéraux primaires, essentiellement les minéraux ferromagnésiens. En règle générale, les sols ont tendance à s'enrichir en oxydroxyde de fer, d'aluminium et de titane par rapport à la silice, qui est souvent éliminé plus rapidement au cours de l'altération.
Les oxydroxydes de fer.
Le fer est un élément abondant dans l'écorce terrestre. Il se rencontre dans la majorité des roches, particulièrement dans les roches basiques comme les gabbros et les basaltes. Le fer est présent dans tous les sols, avec des proportions fort variables, entre 1% et plus de 80% de fer total, exprimé en oxyde ferrique. Dans la zone intertropicale, les teneurs en fer des sols sont de 5 à 10 fois plus importantes qu'en zone tempérée. Les oxydroxydes de fer déterminent très généralement la couleur des sols. Même à très faible concentration, ils ont un fort pouvoir de pigmentation qui augmente quand leur taille décroît. Les formes cristallisées présentes dans les sols sont principalement la gaitite et la lépidocrocyte sous forme hydroxylée, et l'hématite sous forme d'oxyde. La gaitite est l'oxydroxyde de fer le plus commun dans les sols de toutes les régions du globe. Elle donne une couleur brun rougeâtre. La lépidocrocyte est plus rare et se rencontre particulièrement dans les sols hydromorphes. L'hématite est très commune dans les sols des régions tropicales et subtropicales, où sa coloration est franchement rouge. Il existe aussi des formes amorphes ou paracristallines qui constituent des gels colloïdaux, notamment lors des premières étapes de la cristallisation de la gaitite ou de l'hématite. Le comportement géochimique du fer dans les sols est essentiellement régi par le pH et le potentiel redox, noté et, du milieu ambiant. Le pH détermine les domaines d'apparition des formes ioniques ou hydroxylées insolubles. Le potentiel redox détermine quant à lui le domaine d'existence des ions ferriques ou ferreux. Les oxydroxydes d'aluminium. L'aluminium est, comme le fer, l'un des éléments fondamentaux des constituants du sol. Ses composés sont toutefois très discrets, car aucun ne présente les couleurs vives des oxydroxydes de fer. Contrairement au fer, l'aluminium n'est pas sensible aux variations d'oxydoréduction du milieu. Il a en revanche une forte affinité pour la silice, à l'origine de nombreuses combinaisons aluminosiliceuses. Dans les sols acides dont le pH est inférieur à 5,
L'aluminium peut se rencontrer sous forme cationique. C'est ce que l'on appelle l'aluminium échangeable. Il s'agit d'un élément toxique pour les végétaux, et sa détermination dans les sols acides est donc indispensable. Sous-section 8e. Sulfate et chlorure. Il s'agit de sels solubles, que l'on rencontre surtout dans les sols des régions semi-arides ou arides. En l'absence de lessivage, les remontées capillaires engendrent des efflorescences salines à la surface des sols allomorphes. Les sels les plus fréquents sont la halite, c'est-à-dire le chlorure de sodium, le sulfate de sodium et le gypse, c'est-à-dire le sulfate de calcium hydraté. Deuxième section. La matière organique. Il s'agit de résidus d'êtres vivants animaux et végétaux. Cette matière organique joue un rôle très important dans la dynamique du sol. Les restes d'animaux se décomposent rapidement après la mort. Seule la matière végétale donne naissance à des composés à évolution complexe que l'on appelle humus. La vitesse de transformation varie de moins d'un an pour une feuille de hêtre en milieu neutre, à 10 ans et plus pour une aiguille de pin en milieu acide. Les matières organiques du sol peuvent être réunies en 4 groupes. D'abord, les végétaux et animaux vivants, présents sur et dans le sol, représentant plusieurs tonnes à l'hectare et influant directement sur les propriétés du sol. Ensuite, les débris végétaux et animaux organisés, ou matières organiques fraîches, qui retournent au sol avec sensiblement la même composition que les tissus vivants dont ils proviennent. Substances hydrocarbonées comme les sucres, l'amidon, la cellulose ou la lignine, matières azotées sous forme de protéines, et sels minéraux libres. Viennent ensuite les produits transitoires, qui sont les maillons de la chaîne de transformation partant des matières organiques fraîches et aboutissant, pour la plupart, à des substances minérales simples comme le gaz carbonique, les phosphates et les carbonates. Enfin, les acides humiques ou humus stables, qui sont synthétisés au cours de l'humification à partir de résidus de lignine et de cellulose oxydée, de matières azotées et de sels minéraux. Sous-section première. L'humus, colloïde organique. L'analyse de l'humus permet d'en extraire plusieurs constituants. On distingue les acides humiques gris, qui forment l'humus le plus stable, synthétisé en sol riche en calcium à partir de végétaux cellulosiques. Constitués de grosses molécules riches en azote, ils s'unissent à l'argile en un complexe argilo-humique très stable. Les acides humiques bruns forment un humus moins durable, produit en sol légèrement acide à partir de végétaux plus ligneux. Plus pauvre en azote et constitué de plus petites molécules, ils forment avec l'argile un complexe moins stable et disparaissent plus vite du sol. Les acides fulviques sont des produits humiques imparfaits, formés en milieu très acide et mal aéré, où l'activité microbienne est très réduite. Pauvres en azote, non flocculables et généralement solubles, ils sont lessivables et peuvent entraîner la dispersion puis la migration en profondeur des argiles, c'est ce que l'on appelle la podzolisation. Sous-section deuxième. Lumine. C'est un produit complexe et hétérogène, insoluble dans les réactifs d'extraction et faisant partie de la matière organique liée. On distingue des composés résultant d'une évolution rapide de la matière organique, comme la lignine à peine transformée dans un milieu biologique actif, et des composés très polymérisés résultant d'une évolution lente et liée aux matières minérales, présents dans les horizons d'accumulation. Humique des podzols et dans les chernozèmes. Sous-section troisième. Le résidu. Le résidu, ou débris organique, correspond à l'ensemble des éléments dont on peut encore déterminer la structure de tissus organisés. Ils sont très légers et flottent sur les solutions. Sous-section quatrième. Les éléments chimiques associés à la matière organique. Il s'agit surtout de l'azote, du phosphore et du soufre. L'azote est de loin le plus important. La matière organique en est la source principale dans le sol. La proportion du phosphore et du soufre dans la matière organique du sol est de l'ordre d'1%. Sous-section cinquième. Les complexes chimiques. Les oxydes, les produits organiques et les ions du sol sont parfois liés sous forme de complexes chimiques généralement plus solubles que les éléments qui les constituent. Ces complexes peuvent migrer dans le sol tant qu'ils ne sont pas détruits. Lorsqu'ils arrivent dans une zone où les conditions physico-chimiques les déstabilisent, ils sont détruits et les éléments qu'ils transportaient se fixent sous forme insoluble. Le fer, par exemple, migre grâce à la formation de complexes organiques, puis est reprécipité par oxydation sous forme ferrique. Les complexes absorbants. L'argile, l'humus et certains composés amorphes ont la propriété de retenir à leur périphérie des ions qui peuvent être échangés avec d'autres ions de la solution du sol. Les meilleures conditions de croissance pour les plantes cultivées sont réalisées lorsque le complexe absorbant est saturé par des cations alcalino-terreux, surtout le calcium. Ce dernier assure une liaison très tenace entre les particules argileuses et l'humus, et favorise une structure favorable. Le complexe argilo-humique. Il s'agit de l'association de composés organiques avec les constituants argileux de la fraction minérale du sol. La majeure partie de la matière organique humifiée, soit fréquemment entre 50 et 80%, est adsorbée sur les argiles. La formation de tels complexes favorise la structuration du sol par augmentation de la cohésion entre les agrégats. Sous-section 6e. Intérêt agronomique de la matière organique du sol. En matière agricole, il convient de distinguer la matière organique fraîche de la matière organique humifiée. C'est cette dernière qui joue un rôle important dans la fertilité des sols. La matière organique joue un rôle nutritionnel en fournissant des éléments nutritifs par la minéralisation, notamment l'azote, le phosphore et le soufre. Elle régularise l'humidité de tous les types de sols, en favorisant l'évacuation de l'excès d'eau dans les sols argileux, et en augmentant la capacité de rétention en eau des sols sableux. Elle améliore les qualités chimiques du sol par ses propriétés colloïdales et sa minéralisation continue. Elle augmente enfin l'activité microbienne, car elle constitue une source énergétique pour les micro-organismes. Chapitre 3. Organisation et propriétés globales du sol. Première section. Propriétés physiques et organisation du sol. Les constituants du sol ne sont pas répartis de manière aléatoire. Le sol est un milieu hétérogène comportant des gradients et des discontinuités. Il peut s'agir de particules élémentaires, d'agrégats de ces particules, de résidus du matériau originel ou de matériaux transformés. Première sous-section. Couleur du sol. C'est l'indice le plus immédiatement visible des variations de composition du sol. C'est d'abord un reflet de la teneur en matière organique. Le sol est d'autant plus foncé qu'il est plus riche en humus. Mais la couleur traduit aussi l'état du fer dans le sol. Un sol rouge possède des oxydes de fer peu hydratés. Un sol jaune contient des oxydes de fer hydratés et mieux cristallisés. La couleur du sol est déterminée par référence avec un code de couleur standardisé, le code Mincel, utilisé par la quasi-totalité des pédologues. Deuxième sous-section. La structure du sol. La structure désigne le mode d'assemblage des particules qui composent un sol. Elle détermine la répartition dans l'espace de la matière solide et des vides, ce qui conditionne l'ensemble des propriétés physiques fondamentales du sol comme l'aération, la respiration des racines et la rétention d'eau. Les structures résultent de processus de nature variés, biologiques, chimiques et physico-mécaniques. Understanding plusieurs types. La structure particulière résulte de l'absence totale de cohésion entre les particules. Elle caractérise les sols à texture grossière comme les sables. La structure massive correspond à un assemblage continu et cohérent sans phase de dissociation marquée, rencontrée dans les sols limoneux. La structure fragmentaire se caractérise par l'arrangement des particules en agrégats de forme et de dimensions très variables. Parmi les structures construites, on trouve la structure grenue, formée d'agrégats subsphériques de 1 à 10 mm. La structure grumeleuse, à agrégats arrondis et très poreux de même taille. Et la structure nuciforme, à éléments arrondis de taille supérieure à 1 cm. La structure par fissuration comprend la structure polyédrique, à éléments isodimensionnels à arêtes vives. La structure prismatique, dont la dimension verticale peut atteindre à plusieurs décimètres. Et la structure lamellaire, dont la plus forte dimension est horizontale. Troisième sous-section. La porosité. La porosité représente le volume des vides du sol, occupé par de l'eau ou de l'air, et exprimé en pourcentage du volume total. Cette porosité totale varie selon le sol de 30 à 70%. On distingue la microporosité, qui correspond au port capillaire retenant l'eau après ressuyage, et la macroporosité, qui correspond au vide assurant la circulation de l'eau et de l'air. Ce sont les pores de transmission qui permettent le drainage du sol et la mobilisation des substances solubles. Quatrième sous-section. Consistence. Elle traduit la cohésion et la résistance à la pression des unités structurales. On emploie des termes tels que meuble, friable, cohérent et durci pour désigner une résistance croissante à la pression. Cinquième sous-section. L'eau du sol. L'étude de l'eau du sol comporte deux aspects. D'abord un aspect statique, qui est la capacité de rétention en eau du sol, en liaison directe avec la disponibilité en eau pour les plantes. Ensuite un aspect dynamique, qui correspond à la circulation de l'eau dans le sol. On distingue trois états de l'eau du sol. L'eau de gravité occupe momentanément ou de façon plus ou moins permanente les pores les plus grossiers du sol. Soumise à la pesanteur, elle n'est pas retenue par le sol après ressuyage et assure l'entraînement des substances dissoutes ou en suspension. L'eau capillaire absorbable correspond à l'eau contenue dans la microporosité de 0,2 à 8 micromètres. C'est l'eau utilisable par les végétaux et le milieu d'altération des minéraux. L'eau hygroscopique est une mince pellicule d'eau adsorbée par le sol aux dépens de l'humidité atmosphérique. Très énergiquement retenue, elle n'est susceptible d'aucun mouvement et n'est pas absorbable par les végétaux. Les mouvements de l'eau dans le sol sont de trois types. Les mouvements descendants et latéraux correspondent au processus d'infiltration des eaux dans les sols. La perméabilité d'un sol est d'autant plus élevée que la macroporosité est importante. Si la perméabilité est faible dans les horizons profonds, le drainage devient déficient et il se forme une nappe dite perchée, à l'origine de processus d'hydromorphie. Les mouvements verticaux ascendants s'effectuent par remontée capillaire lorsque l'évaporation est suffisante pour déclencher le mouvement ascendant de la solution du sol. Sixième sous-section. Les gaz du sol. Ce sont les mêmes gaz que ceux de l'air. Cependant, les fermentations biologiques de la matière organique et la respiration des racines produisent beaucoup de dioxyde de carbone. Dans les sols engorgés et dans les sols gonflants, les gaz sont chassés du sol. L'oxygène peut alors faire défaut, rendant le sol asphyxiant pour les plantes et réducteur, ce qui favorise la migration du fer. Deuxième section. Propriétés physico-chimiques et chimiques du sol. Première sous-section. Le complexe absorbant. Par ses propriétés d'échange, un sol est capable soit de prélever des ions aux solutions qui sont à son contact, soit de leur en fournir. Le complexe absorbant est l'ensemble des colloïdes, composés humiques et argiles minéralogiques, dotés de charges négatives susceptibles de retenir les cations sous forme échangeable. Les ions échangeables du complexe absorbant sont en équilibre avec les solutions du sol. Toute modification de la composition de la solution du sol provoque un changement de cet équilibre par échange entre les ions du complexe et les ions de la solution. L'ensemble des charges négatives du sol correspond à la capacité d'échange cationique, abrégée en CEC. Cette dernière dépend de la texture, de la teneur en matière organique et de la composition minéralogique du sol. Deuxième sous-section. Le pH du sol. Les sols présentent une gamme très large de pH. On distingue l'acidité actuelle, qui exprime la concentration en ions hydrogène actuellement dissociés dans la solution du sol, l'acidité d'échange ou acidité de réserve, qui prend en considération non seulement les protons dissociés dans la solution du sol, mais aussi ceux qui sont adsorbés sur le complexe d'échange, et l'acidité totale ou potentielle, qui correspond à l'ensemble des protons titrables par une base forte. Troisième sous-section. Le potentiel d'oxydoréduction. L'un des paramètres les plus utilisés pour rendre compte des propriétés oxydantes ou réductrices du milieu sol est le potentiel d'oxydoréduction, noté et exprimé en millivolts. Il résulte du transport d'électrons d'un donneur vers un accepteur. Le E varie, pour l'ensemble des sols terrestres, entre 900 mV en conditions oxydantes et moins 300 mV en conditions très réductrices. Il dépend de plusieurs facteurs, la concentration et l'humidité, le pH, la présence de substances organiques et l'activité de la microflore du sol. L'état d'aération et le niveau d'oxydoréduction règlent un grand nombre d'équilibres dans le sol. En milieu riche en oxygène, le E est élevé, la biodégradation de la matière organique est active et la tendance est à la brunification. En milieu déficient en oxygène, si le milieu est en outre acide, les composés organiques solubles s'accumulent et le fer se réduit partiellement, favorisant les processus de podzolisation et de formation de pseudoblés. En milieu fortement réducteur, sous l'influence de nappes permanentes stagnantes, une anaérobiose accentuée s'installe, la matière organique fraîche s'accumule donnant des tourbes, et les sulfates étant réduits en sulfure, il s'accumule des sulfures de fer noirâtre dans les glais noirs. Chapitre 4. Pédogenèse et classification des sols. Première section. Évolution des sols, facteurs et processus. Première sous-section. Définition, cycle d'évolution. Lorsqu'une roche affleure, elle est progressivement colonisée par la végétation, herbacée d'abord, puis arbustive et enfin forestière. En même temps, le profil se développe, d'abord par formation d'un simple horizon humifère, puis d'horizons minéraux d'altération. À chaque étape d'évolution de la végétation correspond une phase d'évolution du profil. Au bout d'un certain temps, un état d'équilibre stable est atteint, appelé climax. Une évolution qui se rapproche du climax est dite progressive, alors qu'un retour en arrière, provoqué en général par l'érosion, est qualifié d'évolution régressive. L'évolution progressive commence par la formation d'un horizon organique, puis d'un horizon minéral d'altération, et enfin, lorsqu'intervient un processus de migration, par la différenciation en un horizon alluvial appauvri et un horizon alluvial enrichi. L'évolution régressive intervient lorsqu'une perturbation rompt l'équilibre du climax. Si elle est totale, le sol est réduit à sa roche mère, C'est un lithosol sur roche dure ou un régosol sur roche tendre. Si elle est partielle, elle empêche l'édification des horizons d'altération, laissant subsister seulement les horizons humifères. Deuxième sous-section. Facteur temps, cycle court et cycle long. Le temps nécessaire au déroulement complet d'un cycle d'évolution oscille entre un millénaire environ pour certains sols à développement rapide, à plus d'un million d'années pour les sols à évolution lente. Lors des cycles courts, l'orientation de la pédogenèse ne change pratiquement pas. Pour les cycles longs, les variations climatiques importantes peuvent modifier la pédogenèse. Troisième sous-section. Facteurs écologiques et pédogenèse. Les facteurs bioclimatiques généraux sont représentés par le climat général d'une région et par la végétation qui lui est étroitement liée. Ces deux facteurs permettent de définir les grandes zones de végétation et de sol. L'ensemble des sols formés sur des matériaux différents, sur une même zone de végétation climatique et caractérisée par un même type d'humus, est qualifié de sols analogues. Les facteurs de station sont conditionnés par le relief, le matériau d'origine et le drainage local. Ils modifient, parfois même inversent, l'orientation de la pédogenèse climatique. Parmi ces facteurs, le matériau d'origine joue un rôle déterminant. Par exemple, un matériau sableux, pauvre en minéraux altérables, ne peut pas subir le processus de brunification et c'est la podzolisation qui s'instaure. Un matériau riche en calcaire actif empêche le processus normal de décarbonatation, conduisant à la carbonatation et à la formation de randzine. Le relief, même modéré, exerce également une action importante sur la pédogenèse par la modification du régime des eaux, entraînant érosion, transport et dépôt de particules le long des versants. Le facteur humain peut modifier l'évolution naturelle des sols, soit par action directe comme le défrichement et la mise en culture, soit indirectement par la destruction de la végétation climatique et son remplacement par une végétation secondaire qui modifie l'humus et la pédogenèse. Quatrième sous-section. Les processus fondamentaux liés à la pédogenèse. On distingue quatre groupes de processus. Premier groupe, processus liés à l'humification. Ce sont des processus de sol bien drainé, à cycle court, des zones tempérées ou froides. La carbonatation est conditionnée par la présence de calcaire actif dans le profil. Le calcaire actif bloque l'humification à un stade précoce et l'activité biologique est intense. Le profil de randzine qui en résulte est par nature instable en climat humide, sa permanence ne pouvant être assurée que par le renouvellement du stock de carbonate. La brunification est un processus de pédogenèse climatique des zones tempérées, dont la végétation naturelle est dominée par la forêt feuillue. Il s'observe sur tous les matériaux bien drainés et non calcaires qui libèrent de l'argile et des oxydes de fer libres en quantité suffisante. L'horizon minéral d'altération, coloré en brun par les oxydes de fer, prend un développement croissant. Le lessivage est un processus d'entraînement mécanique de particules fines depuis les horizons supérieurs, dits alluviaux et appauvris, vers les horizons profonds, dits alluviaux et enrichis. Les horizons alluviaux sont appelés argiliques et sont caractérisés par la présence de revêtements argileux autour des unités structurales. Le lessivage ne prend réellement de l'importance que dans les milieux d'acidité modérée, avec un pH compris entre 5,5 et 6,5. La podzolisation apparaît sous l'influence d'un humus brut, produisant des composés organiques solubles qui migrent en profondeur sur les matériaux sableux. Ces composés organiques provoquent l'altération des minéraux argileux et entraînent en profondeur les ions aluminium et fer libérés. L'horizon appauvri prend un aspect cendreux, ce qui donne son nom au podzol, qui signifie sol cendreux en russe. Deuxième groupe, processus conditionné par de forts contrastes saisonniers. La mélanisation, aussi appelée isohumisme, est favorisée par l'effet rhizosphère et par une forte bioturbation. Le cycle biogéochimique actif maintient le profil saturé en calcium, mais n'empêche pas une décarbonatation plus ou moins complète du profil, accompagnée de la formation d'un horizon calcique en profondeur. La calcification ou encroûtement concerne la formation de croûtes calcaires plus ou moins durcies dans les sols des régions arides et semi-arides. Ce processus est étroitement lié aux alternances d'humectation et de dessiccation. Les phases humides mobilisent le calcaire par dissolution ou suspension, et les phases sèches favorisent sa précipitation et sa cristallisation. Troisième groupe, processus à base d'altération géochimique prolongée. La fersalitisation caractérise les zones à climat tropical et subtropical, à saison sèche marquée. L'altération des minéraux primaires est moins marquée. Les argiles de type 2 pour 1 sont dominantes, et l'individualisation des oxydes et hydroxydes de fer est importante. Le complexe absorbant reste le plus souvent saturé par le calcium. La ferrugination correspond à une altération plus poussée encore, où les argiles de type 1 pour 1, c'est-à-dire les kaolinites néoformées, deviennent majoritaires. Les oxydes de fer peuvent être rubéfiés ou non, et le taux de saturation est en général plus bas. La ferralitisation caractérise les zones à climat chaud et humide équatorial ou tropical humide. L'altération est rapide et pratiquement complète des minéraux primaires, sauf le quartz. Le profil peut atteindre plusieurs mètres. Les argiles entièrement néoformées sont constituées de kaolinites. Les oxydes libres bien cristallisés sont abondants, et la capacité d'échange cationique des argiles est très faible, traduisant une grande pauvreté en cation basique. Quatrième groupe. Processus lié aux conditions physico-chimiques de la station. L'hydromorphie est un processus de réduction ou de ségrégation locale du fer libre, provoqué par une saturation permanente ou temporaire des pores par l'eau réductrice. On distingue l'hydromorphie temporaire de surface, dite pseudo-glaie, où une nappe perchée hivernale entraîne une réduction partielle du fer et du manganèse, et l'hydromorphie profonde permanente, dite glaie, sous l'influence de nappes profondes très réductrices où le fer est à l'état ferreux et peut s'accumuler sous forme de carbonate ferreux donnant une teinte verdâtre. La salinisation est l'ensemble des mécanismes par lesquels le sol s'enrichit en sels solubles. Elle se réalise principalement dans les régions semi-arides et arides. L'ion sodium peut intervenir soit sous forme saline, soit sous forme échangeable appelée sodisation, soit les deux simultanément. Deuxième section. Classification des sols. Il existe plusieurs types de classification des sols. La notion de base utilisée dans la plupart d'entre elles est celle du profil, composée d'une succession d'horizons. On utilise les trois lettres majuscules A, B et C pour désigner les horizons fondamentaux des profils ayant évolué en station drainée. L'horizon A est l'horizon de surface contenant de la matière organique, souvent appauvrie. L'horizon A0, parfois noté L, correspond à la litière et aux débris végétaux identifiables. L'horizon A1, ou A, est un horizon mixte contenant un mélange de la matière organique et de la matière minérale. L'horizon A2, ou AE, est pauvre en matière organique, souvent lessivé en argile et en oxydroxyde, de couleur claire, c'est l'horizon éluvial. L'horizon B est soit un horizon structural ou d'altération notée entre parenthèses, soit un horizon enrichi par illuviation. Parmi les horizons B enrichis, on distingue le BT, à accumulation d'argile, le BH à accumulation humique, et le BS à accumulation dominante d'oxydroxyde. L'horizon G, de couleur gris-verdâtre et riche en fer ferreux, se forme au sein ou à la limite supérieure d'une nappe. L'horizon C correspond au matériau originel à partir duquel se sont formés les horizons A et B. L'horizon H est un horizon organique tourbeux. Troisième section. Les principaux types de sols. Premier type. Les sols peu évolués. Le caractère commun de cette classe est le faible degré d'altération. On distingue les sols désertiques et subdésertiques, pratiquement dépourvus de matière organique, et les sols peu évolués sur matériaux récents, qui comprennent les sols d'érosion, c'est-à-dire les lithosols sur roches dures et les régosols sur roches tendres, ainsi que les sols d'apport. Ces derniers regroupent les sols alluviaux, caractérisés par une nappe phréatique à forte oscillation saisonnière, et les sols colluviaux qui occupent les bas des pentes. Deuxième type. Les sols à altération biochimique dominante. Il s'agit de sols à cycle court, caractérisant surtout les stations bien drainées des zones tempérées et froides. Les sols humifères désaturés comprennent les rancaires, qui comportent un seul horizon de matière organique peu transformée reposant sur de la roche dure, et les endosols, formés sur matériaux volcaniques, où c'est l'alumine qui joue le rôle principal dans la formation des complexes organominéraux. Les sols calcimagnésiques, dicarbonatés, restent saturés en calcium et en magnésium, et leur profil type est la randzine. Les sols brunifiés se distinguent par la présence d'un horizon d'altération coloré en brun par les oxydes de fer. On distingue les cambisols, sans lessivage de l'argile, et les sols lessivés où le lessivage se superpose à la brunification. Les sols podzolisés, définis par l'école russe de Dokushaev, sont caractérisés par la succession de trois horizons très contrastés. Un humus brut brun ou noir, un horizon cendreux sans structure, et un horizon d'accumulation de composés organiques et minéraux amorphes appelé horizon spodique. Troisième type. Les sols à pédoclimat contrasté. Les forts contrastes saisonniers exercent une influence considérable sur la pédogenèse. Les sols mélanisés ou isohumiques comprennent les chernozèmes, profil humifère épais homogénéisé par bioturbation sur près de 80 cm, contenant de 8 à 9% de matière organique au sommet, et les brunisèmes, intergrades caractérisant des zones plus humides où la prairie remplace la steppe. Les vertisols se distinguent par leur très forte teneur en argile gonflante, de 40 à 70%. En période sèche, de larges fentes de retrait apparaissent dans le sol, et au retour des pluies, l'eau s'infiltre préférentiellement dans ces fentes, provoquant un gonflement localisé des argiles. Quatrième type. Les sols à altération géochimique dominante. Ces sols, formés sous climat chaud subtropical, tropical ou équatorial, présentent une altération des minéraux plus poussée qu'en climat tempéré. Les trois types d'altération, fersialitisation, ferrugination et ferralitisation, peuvent être considérés comme trois étapes d'un même processus se différenciant par une altération de plus en plus poussée et une perte croissante de silice et de base. Les sols fersialitiques sont subtropicaux ou tropicaux, caractérisés par une température moyenne supérieure à 13 degrés Celsius et une pluviométrie assez élevée. Les plus caractéristiques sont les sols rouges méditerranéens, qui présentent un horizon humifère saturé épais et sombre, surmonté d'un horizon d'accumulation argileuse rouge vif à structure polyédrique bien individualisée. Les sols ferrugineux représentent une phase d'évolution intermédiaire entre les sols fersialitiques et les sols ferralitiques. Les argiles de néoformation de type kaolinite l'emportent sur les argiles de type 2 pour 1. Ces sols sont très riches en oxyde ferrique cristallisé qui leur confère une teinte vive, ocre jaune ou rouge. Les sols ferralitiques, également appelés ferrasols, représentent la phase terminale de l'évolution des sols de la région équatoriale humide. L'altération des minéraux primaires y est pratiquement totale. Les oxydes libres bien cristallisés, comme la gypsite, l'hématite et la goethite, colorent le sol en ocre vif ou rouge. La capacité d'échange cationique des argiles est très faible et le taux de saturation généralement bas. On distingue trois principaux types. Les sols ferralitiques à kaolinite dominante, les sols ferralitiques à cuirasse et à nodule, et les sols ferralites à oxydroxyde de fer et d'aluminium dominant. Cinquième type. Les sols liés aux conditions physico-chimiques de station. Les sols hydromorphes sont caractérisés par des phénomènes de réduction ou de ségrégation locale du fer lié à une saturation temporaire ou permanente par l'eau. On distingue deux types fondamentaux. Le pseudoglais, associé à une nappe perchée temporaire d'origine pluviale. Cette nappe, ne pouvant s'écouler, occupe la totalité des pores des horizons supérieurs et génère un bariolage de taches rouilles et de concrétions ferromanganiques. Le glais, associé à une nappe phréatique permanente très réductrice. Les horizons profonds occupés en permanence par la nappe sont caractérisés par la réduction du fer libre, lui conférant une teinte verdâtre. Les sols hydromorphes organiques, ou tourbières, se forment au sein des nappes permanentes très réductrices, qui empêchent la décomposition de la végétation hydrophile. Les sols salsodiques se forment en relation étroite avec la présence d'ions sodium. Ils nécessitent deux conditions, une source locale de sodium et un climat aride permettant la conservation de cet ion dans le profil. L'ion sodium étant très mobile, il ne peut subsister qu'en l'absence de drainage, c'est-à-dire dans les zones climatiques arides. Troisième section. Cartographie des sols et des stations. La cartographie des sols a pour objectif de définir les unités sols d'une région déterminée et de préciser leur extension géographique. C'est une opération de synthèse qui vise à replacer chaque unité sol dans le paysage, à mettre en évidence les relations qui existent entre chaque type de sol et son milieu, et à montrer les interactions entre sols voisins. La cartographie des sols est donc un préalable indispensable à la recherche, la base obligatoire de tout plan d'aménagement et de toute mise en valeur du sol. Elle permet de dresser l'inventaire des sols d'une région, de les classer en fonction de leur aptitude, de tracer les grandes lignes de leur utilisation et de prévoir les mesures de conservation qui s'imposent. Si son objectif a longtemps été scientifique et économique, la cartographie des sols a désormais de nouveaux buts, l'écologie et l'équilibre du paysage.